savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Quelles sont les valeurs d'une démocratie ? La liberté, bien sûr, liberté de pensée, d'expression, de manifestation, l'organisation d'élections libres, évidemment. Mais quid de l'utilisation de la violence ? L'État peut-il exercer une violence sur ses citoyens ? Si oui, dans quel cadre et à quelles conditions ? Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Dès les premières manifestations des Gilets jaunes, il y a bientôt 2 ans, le journaliste David Dufresne a documenté l'emploi de la violence et questionné les méthodes des policiers dans le maintien de l'ordre. Mais de quel ordre parle-t-on ? Autant de questions posées à des policiers, des magistrats, des sociologues, philosophes, artistes, activistes aussi, qui commentent les images des manifestations des Gilets jaunes plusieurs mois après les événements. Le titre de ce documentaire, « Un pays qui se tient sage », il sort mercredi prochain sur les écrans en France et bénéficie du prestigieux label Quinzaine des réalisateurs de Cannes.
On est dans un jeu de juste mesure entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence.
Dégagez !
Où sont ces valeurs partagées aujourd'hui ? Quand cette économie n'obéit plus à des principes d'humanité élémentaires.
Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame.
Ce système de maintien de l'ordre, ce dispositif de maintien de l'ordre sont foncièrement politiques.
Qu'est-ce qui se passe quand l'un des protagonistes ne respecte plus son dire ?
Vous me laissez bosser ! Je suis journaliste !
Est-ce qu'il a toujours le droit d'exercer cette violence ?
Cette violence, on la connaît, on est né avec. On a banalisé.
Bonjour, David Dufresne.
Bonjour.
On vous connaît journaliste, hein, pour Libération dans une autre vie, lanceur d'alerte, romancier, écrivain, cofondateur du site d'information Mediapart. Un pays qui se tient sage est votre premier documentaire pour le cinéma. Ce film, il s'inscrit dans la continuité de vos précédents travaux. Vous diriez que c'est...
Oui, bien sûr. Sauf qu'à chaque fois, j'essaye de renouveler, en tout cas pour moi-même, les formes et les façons de faire. Donc, c'est grosso modo, mon travail, il est autour de la liberté, quoi. Voilà. Ça peut aller de Jacques Brel à la police, c'est-à-dire entre le chantre de la liberté et puis ceux qui sont chargés de la préserver. Mais bon. Qui la piétine parfois, voilà.
Alors, je le disais en introduction, assez vite, hein, au début des manifestations des Gilets jaunes à l'automne 2018, vous êtes actif sur le réseau social Twitter, vous lancez le hashtag, l'interpellation « Allô, place Beauvau ». Alors, je rappelle pour nos auditeurs que la place Beauvau, c'est l'endroit à Paris où se tient le ministère de l'Intérieur. Et donc, avec ce hashtag, vous recensez un par un, hein, les cas de violence. J'ai des souvenirs, hein, notamment de cas de personnes qui ont été mutilées, qui ont perdu un œil ou qui ont été mutilées par des tirs de LBD, là, ce lanceur de balles de défense. Cette nouvelle arme, donc, utilisée par les policiers. Vous vous souvenez de votre premier signalement ? Vous vous souvenez
exactement du premier cas ? Ah oui, bien sûr. Oui, c'était un lycéen à Bordeaux qui avait perdu un œil. Il devait avoir 16 ou 17 ans. C'est mon premier signalement. Et en fait, si vous voulez, l'idée, c'était quand même d'être sidéré par la violence. Parce que moi, j'ai fait déjà un film, j'ai fait des bouquins sur le maintien de l'ordre, mais dans les années 2000. Je m'y intéresse depuis les années 80, fin des années 80. Et donc, sidéré par la violence policière et choqué par le silence médiatique. Hein, il faut quand même rappeler ça. C'est-à-dire que, et le film est aussi encore là-dessus. Et donc, oui, c'était ça. C'est-à-dire que c'était pas les Gilets jaunes, en réalité. C'était les étudiants. À ce moment-là, il y avait les lycéens et les étudiants qui manifestaient en même temps que les Gilets jaunes. Et les premiers signalements portent autant sur les uns que sur les autres. Et d'ailleurs, le titre du film, Un pays qui se tient sage, en fait, fait référence à une scène qui se passe à Mantes-la-Jolie. Ce ne sont pas les Gilets jaunes, ce sont les lycéens. 6 décembre 2018, 151 lycéens, agenouillés, entravés, menottés pendant 2 heures, 3 heures. Et un policier qui les filme et qui dit « Ah, voilà une classe qui se tient sage ».
Des images qui avaient choqué. Ah oui. Une partie qui avait clivé d'ailleurs.
Comme toujours aujourd'hui, c'est-à-dire que on est dans l'émotion, dans la réaction. Donc effectivement, on pouvait entendre une ancienne ministre qui se croit encore candidate potentielle aux élections, Ségolène Royal, nous expliquer ça leur fera des souvenirs. Et puis le monde entier qui avait compris, qui diffusait ces images et qui avait compris le caractère parfaitement scandaleux, odieux, très post-colonial finalement de ces images. Voilà.
Vous, David Dufresne, vous parliez tout à l'heure de votre travail sur la violence depuis les années 2000. Bon, on aura l'occasion, j'imagine, de reparler du contrat social dans cette émission. Mais qu'est-ce qui, à votre avis, a changé depuis les années 2000? Parce que des violences policières, il y en a toujours eu.
Bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs choses. Côté police, la nouveauté, c'est quand même la doctrine, c'est quand même l'armement, c'est quand même les troupes qui ne sont pas tout à fait les mêmes, etc. Du moins en France, l'usage massif de policiers qui sont ni formés, ni entraînés, ni équipés au maintien de l'ordre. La judiciarisation est extrêmement forte, des arrestations en masse, massives, qu'on ne voyait pas avant, des NAS, enfin tout un tas de choses qui ont en fait heurté des institutions comme l'ONU, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe. Donc ça, c'est du côté policier, du côté de l'ordre. Du côté politique, un discours martial absolument ahurissant, dont même Charles Pasqua ou Raymond Marcellin n'auraient pas osé l'utiliser.
Le préfet Grimaud.
Alors le préfet Grimaud, non, ça c'est sûr, parce que lui il était plutôt sur une tendance. Alors après on idéalise un petit peu le préfet Grimaud, mais
de mai 68,
voilà, il était. C'est l'auteur de cette lettre envoyée à tous les policiers fin mai 1968. Frapper un homme à terre, c'est se frapper soi-même. Et de l'autre côté de la barricade, si je puis dire, ce qui change tout, c'est la documentation en fait. C'est le fait que des gens filment, témoigne, raconte. Et le film n'existe que parce qu'il y a ces images. Donc effectivement, les violences policières ne sont absolument pas nées avec les gilets jaunes. Ça fait 30-40 ans dans les quartiers qu'elles existent, qu'elles perdurent, dans l'indifférence à peu près généralisée. Là, ce qui se passe, c'est que maintenant, elles sont documentées, y compris dans les quartiers. C'est-à-dire que maintenant, on commence à filmer, à diffuser des images. Et donc là, le débat peut commencer à s'enclencher.
Et du coup, ces images, alors donc je le disais, David Dufresne, vous aviez lancé, vous avez signalé cas par cas, avec ce hashtag Allo Place Beauvau, les cas de brutalité individuelles. Oui. Et ces images, donc, que l'on voit dans ce film, Un pays qui se tient sage, il y en a que vous avez filmé vous-même, il y en a d'autres, enfin, c'est une question, et oui. Est-ce que vous en avez justement récolté beaucoup d'images inédites?
C'est tout le travail en amont, c'est celui d'authentifier, de créditer, de sourcer, de dater toutes ces images. Et donc j'ai retrouvé 95% des auteurs, ce qui nous permet de les rémunérer, qu'ils soient professionnels ou amateurs, et surtout de leur demander les originaux quand ils les avaient, c'est-à-dire avoir une meilleure qualité que ce qu'on avait pu voir ici ou là, mais surtout de leur demander leurs rushs, leurs images. Et donc en fait, il y a tout un tas d'images qu'on n'a pas vues, qu'on n'a jamais vues parce qu'elles n'avaient pas été diffusées sur le moment. Et donc il y a effectivement tout un travail, parce que le geste cinématographique, c'est bien celui-là, c'est de dire que ces images-là de réseaux sociaux, en fait, sont plus grandes que les réseaux sociaux, elles sont plus grandes que nos téléphones. Que l'idée de les regarder sur Facebook ou Twitter, de scroller, c'est effacer en fait. Swiper, c'est balayer. Donc ça veut dire finalement les repousser de notre mémoire, d'autant plus que parfois elles sont dures. Au cinéma, vous pouvez pas détourner le regard.
Et au cinéma, c'est aussi leur donner une valeur d'archive presque.
Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, on était un peu avec le monteur Florent Mongeau, on était un petit peu des Monsieur Jourdain de l'archivage. C'est-à-dire, on sait très bien que les archivistes ne peuvent pas tout garder. Donc, il y a des méthodes. Et une des méthodes, quelles qu'elles soient, que ce soit les cartes postales, les violences policières, ou les manuscrits, alors peut-être pas médiévaux, aujourd'hui, on les garderait tous. Mais au moment où les choses sont produites, en règle générale, il y a une règle qui dit que quelque chose qui est répété, on ne garde pas la répétition. Dans le montage, c'était ça aussi. C'est pour ça que c'est pas une compilation. On n'a pas mis 15 ou 20 éborgnements, quand bien même j'ai ces images-là, si vous voulez. Parce que, à ce moment-là, effectivement, il y a une forme de responsabilité de se dire, là, on les met dans un endroit dont on est sûr que dans 20 ou 30 ans, ce sera encore regardable. Sur Facebook, sur Twitter, on ne sait pas. Est-ce que ces réseaux existeront toujours? Est-ce qu'ils seront référencés? Est-ce que les algorithmes les auront enfouis on ne sait où? Donc, effectivement, il y a cette idée, mine de rien, d'archivage qu'on avait en tête au moment du montage.
En marchant, en discutant, on entend tous les booms, on voit les flammes, on voit de la fumée partout et on se dit, c'est pas une manifestation comme on a vécu, c'est pas ça que je voulais, c'était pas là, ouais, c'est une guérilla, c'est dingue.
Reçu, donc on va laisser. Allez, on dégage.
Je suis malade. Je sais pas si vous êtes en live, mais c'est chaud. Ils nous ont gazé de fou, malade, les gars.
Ouais, vont nous arrêter. Voilà, faut lever les mains, de toute façon, qu'ils nous arrêtent. On a fait quoi, nous ?
Là, c'est quand les policiers sont rentrés. Juste avant qu'ils rentrent, Max, il disait à tout le monde, levez les mains, de toute façon, on n'a rien fait dans ce Burger King, donc on risque rien. Ils ont qu'à nous emmener, il n'y aura rien contre nous, donc on risque rien, sans problème. Et... Avec Maxime, on est jusque là, avec le sac à dos. Et en fait, on voit que lui, il est sur moi, on voit que mes jambes et mes baskets.
Dans cet extrait, David Dufresne, vous utilisez des images de manifestants. Enfin, on voit des manifestants en fait qui avaient trouvé refuge dans le Burger King près de la place de l'Étoile.
Oui.
C'est ça. Là, on entend les cris. Enfin, et puis on voit à l'image ce qui se passe. Hein, c'est des images inédites là, celles-là.
Alors non, là, elles sont pas tout à fait inédites. En revanche, on les montre dans la longueur. Et là, il se trouve que là, on peut parler presque de cinéma de manière involontaire, mais la personne qui filme, il y a plusieurs sources d'images. Il y a Manon qu'on entend, qui témoigne, qui en fait était en live et qui nous a confié ces images. Là, pour le coup, elle...
C'est elle qu'on entend crier.
C'est elle qu'on entend crier, qui image rare. Et puis, il y a d'autres images moins rares, celles par un vidéaste qui s'appelle Nicolas Mercier, mais qu'on n'avait jamais montré comme elles ont été filmées. C'est-à-dire, en fait, c'est un plan séquence. C'est-à-dire qu'en fait, on est le 1er décembre 2018, c'est l'acte 3 des Gilets jaunes. Il y a eu tout ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe. On est en fin de journée. Il y a une compagnie de CRS qui rentre dans un fast-food, pas loin de la place de l'Étoile, et qui va progresser mètre par mètre, en tabassant, en donnant des coups de matraque à des gens qui sont à terre, qui ne représentent aucune menace. Donc, si vous voulez, en termes de règlement, tout vole en éclats. Et le vidéaste, de la même manière que les CRS progressent lui aussi. Et donc on a cette chose-là, de ce travelling d'horreur. Parce que là, on parle en France beaucoup d'ensauvagement, d'orange mécanique. Là, si là, il y a quelque chose d'orange mécanique, c'est bien ici. C'est une espèce de violence aveugle, gratuite, qui s'abat. Et en laissant la scène, je regardais le chronomètre, donc en laissant la scène 32 secondes...
On n'a pas passé tout l'extrait. Ça dure encore plus longtemps.
En fait, ça dure plus longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on la montre plusieurs fois, mais la première fois, je crois que ça dure plus de 40 secondes. C'est le plan séquence jusqu'à la fin. Et la fin, c'est un policier qui se tourne vers le vidéaste et qui lui demande de dégager. Et qui lui donne des coups de matraque et qui le bouscule. Donc voilà, si vous voulez, c'est pour ça qu'on fait un film au cinéma. C'est-à-dire, c'est pour donner à ces images leur vraie valeur. Et leur valeur, de mon point de vue, c'est l'histoire. C'est pas l'actualité. Vous voyez, c'est pas un extrait. Allez hop, ça fait le JT, puis on passe à autre chose.
Et puis, vous dites, ça fait l'histoire, et aussi c'est pour sortir du déni, parce qu'encore assez récemment, enfin, il y a quelques semaines, on a entendu le président Emmanuel Macron qui disait qu'il n'y avait pas, il n'y a pas de violence policière.
Oui, le déni, il y a eu quelques failles dans le déni, mais ça a été vite réparé. Donc, effectivement, les représentants les plus hauts de l'État, et notamment le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, on voit très bien la reprise en main du discours. C'est d'assumer totalement ou de nier, mais ce qui revient à peu près à la même chose, ce qui, de mon point de vue, est totalement irresponsable. C'est-à-dire que ne pas comprendre qu'il y a un souci entre la violence d'État, les violences policières et une partie de la population, c'est casser le thermomètre. Et ça ne change rien à la contagion, si vous voulez. Et le film, justement, il essaie de dire, il faut débattre, il faut discuter, il faut y aller à fond. Et non pas à coup de petites phrases, comme fait Gérald Darmanin, qui a fait 300 tweets en un mois. Bon, c'est complètement... c'est pas sérieux, quoi.
On est dans la com. Et alors, quand vous le disiez, David Dufresne, vous parliez des images, des réseaux sociaux qui sont aussi vite oubliées que vues. Là, c'est du cinéma, on les voit sur grand écran. Et alors, vous, dans votre film, dans ce documentaire Un pays qui se tient sage, vous avez choisi un dispositif très fort, c'est-à-dire que vous projetez ces images, vous aussi, sur grand écran. On les voit projetées sur un grand écran. Et vos intervenants, qu'ils soient sociologues ou policiers, parce qu'il y a aussi des policiers, syndiqués qui commentent, ils commentent ces images presque plus grandes qu'eux. Ce dispositif, c'était justement pourquoi ?
Les images sont plus grandes qu'eux parce que ce sont des silhouettes devant des écrans. Quand on dit grand écran, c'est écran de cinéma. Hein, c'est un écran de cinéma. Donc évidemment, les images sont plus grandes. Alors il y a un effet d'optique, il y a un effet tout simple qui est de dire ces images sont plus grandes que nous. Ces images, c'est l'histoire de France en fait.
Ça leur donne une responsabilité, du coup.
Ça leur donne une responsabilité, mais surtout, ce qui se passe, c'est que le spectateur qui est dans son fauteuil, en fait, quand il voit à l'écran des gens qui commentent les images, en fait, il y a un phénomène d'identification. C'est-à-dire que les deux, la personne qui est à l'écran comme le spectateur, regardent la même image et analysent et réfléchissent parce que, évidemment, c'est aussi un film sur l'image, sur le sens de l'image et sur le fait que, contrairement à l'adage débile répété à longueur de temps sur les chaînes d'information, l'image parle d'elle-même, pas du tout. L'image ne parle pas d'elle-même. En réalité, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Et c'est justement le propos du film, c'est de dire, voilà, il y a tout un récit, tout un discours, grosso modo, des dominants, de ceux qui dominent, de ceux qui dirigent, qu'il faut entendre, mais qui ne doit pas être unique. Donc c'est un contre-récit, si vous voulez.
Voilà. Oui, c'est-à-dire que vous jouez, enfin pour citer Lévi-Strauss, hein, vous jouez tout le temps entre le cru et le cuit, entre une parole qui est constituée et une parole qui est beaucoup plus, je dirais, tripale.
Oui.
Comment vous les avez constitués, ces binômes, justement, dans quel esprit ?
L'idée des protagonistes, ils sont plus d'une vingtaine, ce qui est beaucoup, si vous voulez, pour un film. Ils ont tous un point commun, tous, quels que soient leurs horizons, leurs origines, c'est de vouloir partager leur point de vue, de vouloir discuter, mais vraiment discuter, de converser, pas d'être dans l'invective ou dans le monologue. C'était ça le point de départ. Ensuite, il y avait l'idée d'être dans la connivence. Parfois d'être plutôt dans la confrontation de points de vue pour avoir des rythmes différents, si vous voulez, mais en soigneusement en évitant tous les travers dans lesquels aujourd'hui là encore les chaînes d'info tombent. J'en parle beaucoup parce que c'est elles qui construisent l'opinion en ce moment, donc il faut les étudier et on voit bien que l'idée de la punchline, de la réplique, de la répartie entre trois approximations, 10 contre-vérités et 100 mensonges, c'est ça aujourd'hui. Hein, c'est bon. Et donc moi je voulais absolument éviter ça. Je voulais absolument pas qu'il y ait de fight ou de appeler ça comme vous voulez, de clash. C'est pas ça du tout. L'idée c'était vraiment discutons, débattons, allons au fond des choses. Alors de temps en temps, deux historiennes parlent d'histoire, donc elles sont plus presque dans une discussion de gourmet, c'est-à-dire d'essayer d'être le plus fin possible, d'aller le plus loin possible dans leur connaissance. Parfois, on est plus dans un niveau de séduction entre deux personnes qui se connaissent pas et qui ont envie de convaincre l'autre. Parfois, on est comme par exemple avec Taha Bouaf, le journaliste, et Benoît Barret, le porte-parole d'Alliance. Alors là, on est beaucoup plus dans une confrontation, mais qui est d'une certaine manière un peu complice, c'est-à-dire que il y a pas de violence, les choses sont extrêmement dites, le langage corporel est très fort.
Ce sont les meilleurs ennemis du monde.
À ce moment-là, oui. À ce moment-là, mais je les remercie tous les deux parce que quand ils se rencontrent publiquement, les choses sont très dures entre le syndicat et le journaliste, où il y a des tracts dégueulasses sur le journaliste par le syndicat, mais vraiment dégueulasses. Et Taha Bouaf accepte la conversation. Et il a raison, parce que je trouve que du haut de ses 22 ans, enfin même à l'époque, je crois qu'il a 20 ans ou 21 au moment du tournage, il arrive à je trouve, à percer l'humanité de son interlocuteur. Voilà. Et ça, c'est parce que c'est dispositif. C'est-à-dire que ce ne sont jamais des gens qui répondent à un intervieweur, qu'il soit cinéaste ou autre. Ce sont des gens qui discutent, qui dialoguent, qui conversent. Et d'une certaine manière, là, on est plus proche de la fiction au sens... Alors, rien n'est écrit, c'est l'immense différence, puisque ça va assez loin, puisque je fais même pas de pré-entretien, moi. Donc c'est, mais l'idée de la conversation, d'être le plus près possible du naturel.
Sophie parlait tout à l'heure des policiers, hein, ou policiers syndicalistes ou pas, qui sont dans votre film, David Dufresne. Ça a été compliqué, vous en avez contacté combien de dizaines?
Non, pas combien de dizaines, non, il y a... Alors on peut pas... Il faut pas déflorer la fin du film, mais il y a eu des difficultés. Voilà, il y a eu des difficultés. Il y en a qui m'ont planté. Hein. Il y a un syndicat de commissaires qui a décidé de pas venir le matin même du tournage, etc. Donc c'est pas bien, quoi. Ça se fait pas.
Et la haute hiérarchie, elle a décliné.
Et la haute hiérarchie, je laisse les spectateurs découvrir ce qui s'est passé avec elle. Mais disons que ce qui est préoccupant au-delà du film, c'est que alors qu'un débat naît, un débat est en train d'arriver sur les questions de police, de pratiques policières, on sent bien que l'institution se replie sur elle-même, se recroqueville, poussée d'un côté par les syndicats, poussée aussi par la base policière qui n'est pas forcément syndiquée, accompagnée d'une presse qui est plutôt favorable quand même aux questions de police, qui a un peu de mal à observer et à critiquer la police.
À vous trouver ?
Ah oui, bien sûr, oui. À quelques exceptions près, oui, bien sûr. Mais il y a plein de raisons à ça. C'est si vous voulez, quand vous êtes journaliste police, puisque c'est le terme, c'est très compliqué. Vous êtes dans un milieu hostile. Les policiers n'aiment pas tellement les journalistes, et en plus, ils ont le droit de ne pas vous parler, le devoir de réserve. Donc c'est très difficile. Je concède tout à fait ça. Après, je pense que une presse qui n'est pas dans le contre-pouvoir n'a pas beaucoup d'intérêt. Et c'est intéressant pour moi, je vous dis franchement, d'être obligé, enfin à un moment donné, de passer par le roman, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en fait, entre Allo Place Beauvau et le film, il y a le roman, et puis maintenant, il y a le cinéma. C'est-à-dire que c'est quand même un signe qu'on ne peut pas forcément s'exprimer, au fond des choses, sur ces questions-là, dans les médias traditionnels.
Pour moi, pour les Nations Unies, l'État a le monopole et la légitimité du maintien de l'ordre. Mais est-ce que pour autant la violence est légitime ? C'est une autre question. Donc, et quand on interroge le gouvernement français qui nous dit qu'il n'y a pas de violence policière alors qu'on a des témoignages, des vidéos, des images, et qu'on nous dit que cette violence-là est légitime en contrepartie ou en réponse à la violence des manifestations, c'est là que la question se pose pour moi.
Tirez! Tiens, toi! Mais non! Allez, ciao! Arrêtez! Arrête! Arrêtez! Oh! Arrêtez! Putain, arrête! Arrêtez! Arrêtez! Oh! Arrête! C'est ouvert! Arrête!
Alors on entend les tirs, les cris d'un homme qui se réfugie en fait dans une voiture. On entend la peur là.
Bien sûr. Oui.
C'est effectivement rien que la bande son. On n'a pas l'image, mais rien qu'au son, on entend la peur face à la violence. En l'occurrence, c'est les policiers hein, qui sont avec une matraque, qui veulent faire sortir l'intervenant de la voiture. Et juste avant, on a entendu une voix d'homme qui parlait de la violence légitime. Vous pouvez nous dire qui parlait là ?
Bien sûr, c'est Michel Forst, rapporteur spécial de l'ONU, qui vient dans le film débattre avec un ethnologue, Romain Huette, autour de la question de la violence. Et Michel Forst parle notamment des réactions de la France, quand je dis de la France, des institutions françaises, quand l'ONU a commencé à demander des comptes à la France. Voilà, il est là. Alors la scène qu'on a entendue, c'est en fait deux frères qui ont... 19 et 16 ans, celui qui filme a 16 ans. Et effectivement, c'est une scène de terreur, en fait. Mais c'est intéressant que, rien qu'avec le son, on comprenne. Mmh. Parce qu'en fait, il y a eu un gros travail dans le film sur le son. Et le son, on l'oublie toujours quand on est au cinéma. Mais en réalité, il est absolument primordial. C'est quand même lui qui saisit en premier. Donc, on n'a absolument pas rajouté, évidemment. On a simplement travaillé le son. C'est-à-dire que on a nettoyé tous les parasites, tout ce qui fait que quand... ce genre d'images sont diffusées sur les réseaux sociaux, c'est très compressé. Le son est compressé, il y a un souffle, il y a un bruit qu'on a essayé d'écarter. Et donc, quand vous êtes dans la salle, tout d'un coup, ça devient très clair, ça devient très net. Et le son est absolument important. Enfin...
Alors, on entendait donc l'intervenant parler du concept de violence légitime. Il faut peut-être l'utiliser, parce que ça, vous le développez aussi beaucoup dans le film David Dufresne, ce concept élaboré par Max Weber au 19e. Max Weber, c'est l'un des père de la sociologie moderne, où il expliquait que l'État détenait ou revendique le monopole de la violence physique légitime. C'est même pour lui une définition en fait de l'État. Et on l'entend voilà. Tout le temps. On entend encore récemment Gérald Darmanin. Voilà, alors, justifier, en tout cas le maintien de l'ordre, c'est aussi la violence.
C'est un des points de départ du film, c'est cette phrase de Max Weber, parce qu'en fait cette phrase c'est un peu une tarte à la crème. À la fois, c'est une phrase fulgurante, parce que effectivement, en quelques mots, il y a tout. Donc, on peut discuter, c'est ce qu'on fait dans le film, de la violence légitime, du monopole, de l'État, et de mon point de vue, surtout de la revendication. C'est-à-dire l'idée que l'État revendique, ce qui veut dire que il y a négociation, il y a discussion. S'il revendique, c'est que c'est pas coulé dans le marbre. Et justement, vous venez de parler de Gérald Darmanin. Qu'est-ce qu'il fait, lui, Gérald Darmanin, il y a quelques semaines? Il dit... la police a la violence pour elle, la violence légitime. C'est pas du tout ce qu'a dit Max Weber. D'abord, il a pas parlé de la police, mais de l'État. Et ensuite, il a pas dit détient, il a dit revendique. Et nous, on part de cette phrase dans son acceptation la plus courante pour rappeler ce qu'est la vraie phrase et pour finalement parler de démocratie. Parce que c'est de ça dont on parle dans le film. On parle beaucoup plus de liberté, de démocratie que de... finalement que de police. La police étant là le bras armé, si vous voulez, d'un État. Et donc, quand un général de gendarmerie lui-même évoque la question, enfin, met en perspective la question de la légitimité de l'emploi de la force avec la légitimité d'un État qui en perd de plus en plus parce que c'est inégalitaire, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est le contrat social de Rousseau, si vous voulez. C'est de ça dont on parle, en fait.
C'est ça, justement. Si vous venez de dire que la violence policière, elle est politique. Donc, est-ce que ça veut dire qu'actuellement, on est en train de vivre la fin du contrat social tel qu'on l'a vécu depuis plusieurs siècles? Vous parlez dans votre film, David Dufresne, à un autre moment, de ce qui serait la spécificité en fait d'une société, d'un régime totalitaire, qui serait de prévenir la violence. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à la multiplication des gardes à vue, etc. Enfin, on est déjà un petit peu dans Minority Report.
Oui, absolument. Alors ça, en fait, ça part d'une rencontre très tranquille entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron au Fort de Briançon en 2019. C'est passé un peu inaperçu. Il y a eu une petite polémique sur les interprètes. Est-ce qu'elles avaient bien interprété ce qu'avait dit Poutine? Mais en fait, là, il se passe un enjeu massif. C'est qu'on a Poutine qui vient dire à Macron, chez lui en plus,
dans son lieu de villégiature.
Donc c'est quand même un affront. Il vient dire, mais... nous, les Russes, il n'y a pas de blessés dans les manifestations. Il oublie, évidemment, de dire qu'il n'y a même pas de manifestants. Ils sont arrêtés dans le métro, ils sont arrêtés avant que ça se passe. Et donc, c'est ce qu'on appelle les régimes préventifs, parce qu'il faut faire attention, prévention, on peut penser que
que c'est bien.
Voilà, et là, c'est au sens, effectivement, on arrête les gens avant qu'ils puissent commettre quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on est dans le procès d'intention. Et, en effet... ce qui est à l'œuvre depuis quelques mois en France sur les manifestations, mais en fait ça va plus loin, c'est effectivement une façon d'opérer. On a vu très très récemment un site internet, Street Press, a révélé les consignes de la préfecture de police de Paris demandant à ces hommes d'arrêter des gens avec le profil casseur. Ça ne veut rien dire. Ça ne repose sur rien, le profil casseur. Ça ne repose absolument sur rien judiciairement. Sauf que ce sont les consignes et ça a été appliqué. Et donc on a vu des centaines et des centaines de gens arrêtés préventivement. Et en fait, pendant 4 heures, le temps du contrôle d'identité, voire plus, pour être maintenu à l'écart de la manifestation. Donc effectivement, ce sont des enjeux démocratiques absolument centraux.
Et il y a bientôt aussi un projet, je crois, de décret, en tout cas, visant à encadrer la couverture journalistique des manifestations, et auquel les différentes sociétés de journalistes des différents journaux sont appelés à se prononcer. Parce que c'est effectivement pour viser. Alors, c'est assez récent aussi.
Ça date de
l'histoire moderne.
Ça date de... En tout cas, cette décision date du 17 septembre, donc c'est tout récent. C'est ce qu'on appelle le nouveau schéma du maintien de l'ordre. Et ce qui est éclairant pour nous, c'est que nous, le film sort à ce moment-là. C'est-à-dire que si Gérald Darmanin arrive à ses fins, ce film-là n'aurait pas pu exister. Parce que d'un côté, il voudrait que les visages des policiers soient floutés, garantir l'anonymat absolument des forces de l'ordre. De l'autre, il aimerait choisir les journalistes. Tel journaliste pourrait couvrir les manifestations jusqu'au bout, d'autres non.
Il faudrait se déclarer auparavant en préfecture, il faut avoir la carte de presse. Or, tous les journalistes n'ont pas la carte de presse.
Non, absolument pas. Non, parce que le journalisme, c'est une pratique. C'est pas un métier, c'est une pratique, c'est complètement différent, mais bon. Et si vous voulez, le film, il arrive à ce moment-là. C'est-à-dire que, justement, le film souligne, il y a un hommage par l'affiche et même, pour ceux qui verront, il y a un hommage appuyé aux vidéastes, aux gens qui filment, parce que je crois vraiment que c'est une avancée démocratique. C'est l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. La garantie des droits de l'homme nécessite l'instauration d'une force publique. Et force publique, ça veut dire des policiers qui agissent au nom de tous, à la vue et au su de tous. Et c'est pas la police du roi qui, avec ses lettres de cachet, fait ce qu'elle veut. Et je dis pas que Darmanin voudrait revenir aux lettres de cachet, mais voudrait un peu cacher certaines pratiques, ça c'est sûr.
David Dufresne, merci. Votre documentaire, Un pays qui se tient sage, sort mercredi sur les écrans français. Et je signale la parution d'une enquête en bande dessinée sur les violences policières, une coédition Mediapart et la revue Dessinée. Une pause musicale dans tous les cinémas du monde, un peu de douceur après ces brutalités, la douceur de la voix de Juliette Gréco, immense chanteuse et comédienne, décédée mercredi à l'âge de 93 ans. Elle chantait également dans les films comme cette romance Sous le ciel de Paris du film éponyme de Julien Duvivier.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger.
Vous êtes bien sur RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Dans les salles, cette semaine, les affaires reprennent, même si la fréquentation est toujours atone et ne risque pas d'augmenter compte tenu des nouvelles mesures sanitaires. 13 nouveaux films sont à l'affiche depuis mercredi. La nouvelle expérimentation de Gaspard Noé, c'est Lux Aeterna avec Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg. Les Apparences, nouveau film de Marc Fitoussi, une sorte de pseudo-thriller chabrolien avec Karine Viard et Benjamin Biolay, couple dans le milieu expatrié français de Vienne. Alors moi, je vais vous recommander Ondine, vu et apprécié au dernier festival de Berlin où il a remporté le prix de la critique et le prix de la meilleure interprétation féminine pour Paola Aubert, un film signé Christian Petzold. Ondine.
Er will hierbleiben.
Das ganze Wochenende. Christoph wartet auf Undine.
Alors, Ondine, hein, c'est un conte qui a souvent été porté à la scène ou à l'écran. L'histoire, c'est un peu la même que la petite sirène. La naïade, Ondine, quitte son peuple des rivières pour rejoindre le monde des hommes par amour pour un chevalier. L'amoureux la délaisse et cette trahison lui coûtera la vie. Enfin, elle coûtera la vie de l'amoureux, en l'occurrence.
Très romantique.
Très romantique. Et le chef de file du nouveau cinéma allemand, Christian Petzold, livre sa version moderne du conte.
Ja, ich habe Undine gewählt.
J'ai choisi Ondine car c'est un mythe allemand qui m'intrigue depuis longtemps. Il s'agit de la relation entre homme et femme, entre un artiste et sa muse, et de femme née du désir des hommes.
Alors, comme dans le conte originel, dans le film, Ondine se vengera d'un homme qui l'a quitté pour une autre, mais elle va aussi tombée amoureuse d'un autre homme. Le cinéaste allemand, lui, il modernise la fable en l'inscrivant vraiment dans la géographie de Berlin, puisque la Ondine du film incarnée par Paola Baer, alors Paola Baer, on l'a découverte en France, hein, juste pour la petite histoire, dans le Franz de François Ozon. Donc Paola Baer, Ondine, est conférencière à l'Institut d'urbanisme. Elle raconte l'histoire des transformations de la capitale allemande.
Berlin est une ville étrange car c'est une ville sans grande tradition. Elle n'a peut-être que 200 ans d'existence. Elle n'a pas vraiment de contes de fées ou d'histoires propres à elle. Et j'ai toujours eu l'impression que cette ville conservait une froideur prussienne, un marais tari, qu'il ne pouvait pas y avoir d'histoire. Ondine est un être mythique venu d'un marais tari qui lève la voix et qui explique aux hommes à Berlin: c'est ça que vous faites de cette ville? Si vous continuez à donner la ville aux mains des commerçants, il n'y aura bientôt plus d'histoires, de mythes et de contes de fées.
Alors, vous y faisiez référence tout à l'heure, Elisabeth. Effectivement, le romantisme allemand, il est présent, en fait, dans ce film qui se situe vraiment à l'époque actuelle. Christian Petzold met en scène une superbe histoire d'amour qui brave le temps, hein, donc une histoire d'amour entre Ondine et Johannes, et il a tenu à filmer des séquences aquatiques sans effet numérique, donc il est vraiment, enfin en tout cas il a vraiment filmé ses acteurs évoluant dans l'eau, et il a pris pour référence des films de l'âge d'or de Hollywood.
J'aime beaucoup les scènes tournées sous l'eau car il n'y a pas de dialogue et on est immergé dans un espace acoustique et lumineux féerique. Pour Ondine, j'ai visionné plusieurs films: La nuit du chasseur, La créature du lac noir de Jack Arnold, et puis la version de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne par Richard Fleischer. J'ai vraiment tenu à tourner sous l'eau sans effets spéciaux numériques. J'étais complètement isolé et je n'avais pas d'accès aux acteurs Paula Baer et Frank Rogowski qui ont inventé leur propre chorégraphie sous l'eau qu'ils ont ensuite poursuivie une fois à terre.
Voilà, moi j'avais vu ce film au Festival de Berlin et vraiment, je ne suis pas une fan absolue de Christian Petzold, mais ce film-là m'a totalement envoûtée. La performance de Paola Baer vraiment contribue à la magie. D'ailleurs, a valu à la comédienne de 25 ans le prix de la meilleure actrice au dernier Festival de Berlin.
Ah non, mais ne dis pas que t'es encore au lit à cette heure-ci.
Vivement que ça s'arrête, cette dépression, ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure.
Si tu te reprends pas immédiatement en main, tu finiras en HP, comme ta grand-mère Babette.
J'ai 34 ans, j'ai pas de boulot.
T'as voulu devenir écrivain? Tu t'es planté.
Savoir faire un constat d'échec, parfois, si tu avais du talent, ça saurait maintenant.
Alors, on change complètement de registre avec un film que vous avez vu, Elisabeth, une comédie romantique, Éléonore. Alors, la Éléonore du titre, c'est une grande bringue en basket. Elle est serveuse dans un café. Elle rêve de devenir romancière à succès. Mais cela fait des années qu'elle traîne son manuscrit d'éditeur en éditeur. Bref, c'est le boulet de la famille qui ne se prive pas de le lui faire remarquer. Et Éléonore, c'est Nora Hamzaoui dans son premier grand rôle au cinéma.
Oui, son premier grand rôle, et en plus devant la caméra de son frère aîné, Amro Hamzaoui, hein, dont c'est le premier long métrage. Alors autant vous dire que moi, ce film, je l'attendais, Sophie, depuis très 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 longtemps. La suite de cette comédie romantique, alors on va pas tout déflorer, mais Éléonore va se faire embaucher par un vieil éditeur misogyne, et devinez quoi, ils vont évidemment tomber amoureux. Alors moi, j'aime beaucoup Nora Hamzaoui sur scène. J'aime beaucoup son personnage de fille un peu paumée, toujours entre le long lamento de la célibataire sans mec et puis les petites vacheries acerbes, toujours entre la plainte et le coup de griffe. Voilà, en un seul mot, j'adore Nora Hamzaoui. Le problème, c'est que pour transformer ça en film, eh bien, il faudrait un scénario, il faudrait du rythme, il faudrait un vrai réalisateur. Tout ça est totalement lourdeau, donc on ne doute pas que les fans de Nora Hamzaoui, ils sont nombreux, iront voir ce film, mais aux autres, j'ai plutôt envie de dire, malheureusement, abstenez-vous.
Bon, bah c'est dommage.
Attendons qu'elle ait son premier vrai grand rôle au cinéma.
Et puis, on termine notre séance par un tour du monde de la planète cinéma. Et pour commencer, cette voix inimitable, celle d'un monstre sacré du cinéma français qui nous a quittés cette semaine, Michael Lonsdal.
Je rencontre des jeunes acteurs pour mon prochain film, adapté de l'Astrée de d'Honoré d'Urfé. Vous connaissez ?
Oui, je crois que je l'ai lu au lycée.
Ah. Ah, c'est drôle parce que le livre n'a pas été édité depuis 20 ans.
Voilà la voix de Michael Lonsdal en 2014 dans Maestro. Il incarnait un cinéaste évidemment fortement inspiré d'Éric Rohmer, faisant passer à de jeunes comédiens de savoureuses auditions. Michael Lonsdal est décédé à l'âge de 89 ans. On se souvient de lui comme l'abbé du nom de la rose, l'amoureux transi d'India Song, l'un des assassins aussi de La mariée était en noir, ou encore le voisin inquiétant de Monsieur Klein.
Et oui, et c'est vrai qu'il a longtemps, ce comédien d'exception, il a longtemps été abonné au second rôle, sans doute parce qu'il avait un physique, ce physique très, très particulier. C'était presque un géant avec un visage carré, des sourcils très épais, une calvitie très précoce. Sur les 200 films que compte sa carrière, est âgé sur plus de 60 ans. Son talent à fleur de peau était pourtant aussi flagrant que sa voix singulière qu'on vient d'entendre, sa voix silente et découpée, lui dont la langue paternelle était l'anglais. Sa carrière s'est toujours partagée à Michael Lonsdal entre les planches et le grand écran, où il a tourné, je le rappelle, avec la fine fleur du cinéma d'auteur, Orson Welles pour commencer, puis Alain René, puis Louis Malle, François Truffaut, j'en oublie beaucoup. Il s'est aussi affiché dans des grosses productions comme Munich de Steven Spielberg, ou encore un James Bond où il donnait la réplique à Roger Moore. Et pourtant les médias ont tardé, semble-t-il, on avait cette impression qu'il tardait à découvrir cet immense comédien alors qu'il se faisait de plus en plus proche du public, en toute discrétion, et puis explosion en 2010, avec le succès inattendu du film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux, l'histoire des moines de Tibérine en Algérie, massacré pendant la guerre civile. À l'époque, il était déjà très âgé, Michael Lonsdal. Il va se retrouver en pleine lumière et c'est là qu'il va obtenir son premier César, celui du meilleur second rôle masculin.
Alors on a déjà parlé la semaine dernière puisque le film a décroché le Lion d'or de la Mostra de Venise et maintenant Nomadland, dont on entend la bande-annonce, a été récompensé au Festival de Toronto. Ça sent bon les Oscars, Elisabeth.
Et oui, d'autant que le road movie de Chloé Zhao met en scène une immense actrice française, McDormand, déjà récipiendaire de 2 Oscars. Alors on peut penser qu'elle est peut-être sur la route du 3e, d'autant que le prix du Festival de Toronto, qui est, rappelons-le, le seul prix décerné par le festival, c'est un prix du public. C'est toujours un bon indice. Les 8 derniers lauréats, à titre indicatif, ont tous été nommés aux Oscars dans la catégorie du meilleur film. Donc voilà, on attend. Réponse Sophie le 25 avril prochain, puisque c'est la nouvelle date de la cérémonie des Oscars repoussée pour cause d'épidémie.
You get the truck, come back with the money.
That's $2.5 million per head. If you come back alive.
She's done it.
Un film de zombies qui cartonne en Asie du Sud-Est, c'est Peninsula de Yeon Sang-ho.
Oui, il a pris la tête du box-office et battu des records à plus de 37 millions de dollars en 15 jours. C'est un film qui sort bientôt sur les écrans français, Sophie.
Mais c'est une bonne nouvelle dans un océan de marasme.
Mais oui, parce que le cinéma coréen est en berne, hein, lui aussi pour cause de Covid. Moins 20% de films produits. Zéro film tourné en juin, trois films seulement tournés en juillet et août. Et on ne compte plus, Sophie, les tournages à l'étranger rapatriés d'urgence depuis mars. Hein, par exemple, Bogota de Song Joong-ki, ni des tournages interrompus, bien sûr, à cause de l'apparition d'un cas de Covid. Bref, c'est vraiment une année noire pour le cinéma coréen.
Et on termine notre tour du monde au Brésil, où les salles de cinéma sont toujours fermées en raison... la pandémie du coronavirus, et où, à peine sorti sur Netflix, donc qui est un peu le seul endroit où on peut voir des films, le film Mignonne de Maïmouna Doucouré a déclenché une grosse polémique. Il pourrait même être censuré à la demande du gouvernement d'extrême droite de Jair Bolsonaro. Martin Bernard, vous êtes en ligne de Sao Paulo. Que se passe-t-il? Pourquoi cette réaction du gouvernement à la sortie du film de Maïmouna Doucouré?
Eh bien oui, une réaction très virulente, tout d'abord de Damarès Alves. Damarès Alves, c'est la ministre des Droits de l'Homme, de la Famille et de la Femme de l'actuel gouvernement. Et Damarès Alves a immédiatement réagi. « Je suis en colère », dit-elle sur Facebook. « Je suis très en colère », en qualifiant le film de « production abominable ». Pas dans ce pays, Netflix, poursuit-elle. Nous ne ferons aucune concession à tous ceux qui cherchent à érotiser ou à banaliser la pédophilie. Fin de citation. Avec le hashtag droits de l'homme pour tous ou encore pédoflix. Le film est déjà sorti sur les petits écrans avec une recommandation pour un public à partir de 16 ans. Mais le gouvernement souhaite maintenant que la justice intervienne et même empêche la diffusion du film Mignonne.
Alors Bertrand Tavernier, les frères Dardenne, une vingtaine de réalisateurs ont pris fait et cause pour ce film qui a reçu, on le rappelle, le prix du jury au Festival de Sundance et qui justement dénonce en fait l'hypersexualisation des petites filles. Il n'est pas du tout une valorisation du phénomène. Pourquoi, Martin Bernard, pourquoi est-ce que cette polémique qui a déjà eu lieu aux États-Unis a rebondi au Brésil?
Oui, en fait, les critiques viennent surtout d'un milieu évangélique très conservateur qui a une certaine influence sur une partie de la société ici au Brésil. La ministre Damarès Alves est elle-même avocate et pasteur évangélique. En fait, les critiques à l'égard d'une prétendue apologie de la pédophilie ou à l'érotisation précoce partent d'une lecture très premier degré d'une histoire que la réalisatrice voulait certainement très complexe. L'histoire, c'est celle d'une préadolescente sénégalaise à Paris qui cherche à se faire des nouvelles copines et qui doit encaisser, en plus, le choc de la culture des réseaux sociaux.
Et au Brésil, Martin Bernard, est-ce que tout le monde, du coup, est contre ce film ?
Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Tout d'abord parce que l'audience de Netflix est très restreinte au Brésil. Ça correspond à moins de 10% de la population. Et puis la critique, en fait, explique bien que l'intention de Maïmouna Doucouré est de montrer les excès de l'érotisation précoce de cette génération, justement par le biais des réseaux sociaux. Et puis le critique Tony Goyce estime au passage que la jeune Fatia Youssouf est prodigieuse dans le rôle d'Ami. Enfin, Mignonne, on peut dire que ce film Mignonne a fourni à l'extrême droite un prétexte pour se déchaîner contre son ennemi imaginaire préféré, à savoir une soi-disant normalisation de la pédophilie alimentée par les médias et par le cinéma.
Merci Martin Bernard, je rappelle que vous êtes notre correspondant à Sao Paulo. Et on signale aussi que Mignonne est toujours à l'affiche en salle en France. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré
et Sophie Torlotin, à la réalisation Fanny Renard.
On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie de Jean-Xavier de Lestrade et d'Yvan Jablonka pour la mini-série Laetitia. D'ici là, bonne semaine à tous.
Tous les cinémas du monde.